roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poésie no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesia non vi aiuta a vivere, allora fate qualcos'altro.
L'émission quinzomadaire de la BIP, brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus. Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanque, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Bonsoir, c'est le printemps, le mimosa est en fleur. C'est le printemps des poètes aussi qui, cette année, a mis le rire à l'honneur. Et notre façon d'y contribuer, nous, la BIP, avec cette émission, c'est de rendre hommage à ce poète au rire un peu grinçant qu'on a déjà annoncé. Des centaines de groupes scolaires portent son nom. Il a été scénariste, dialoguiste, peintre. Il a écrit toutes sortes de choses pour tout le monde. Et éventuellement, on l'a traité de poète, ce qui ne lui faisait ni chaud ni froid. Et il s'appelle Jacques Prévert. Alors c'est ce Prévert un peu rebelle et anard dont on va parler aujourd'hui. Celui qui a amené peut-être un nouveau parler à la fois populaire et extrêmement vif. Jacques Prévert, dîner de tête.
Ce qui copieusement, ce qui tricolore, ce qui inaugure, ce qui croit croire, ce qui croit croit, ce qui ont des plumes, ce qui grignote, ce qui andromaque, ce qui dreadnought, ce qui majuscule, ce qui chante en mesure, ce qui brosse à reluire, ce qui ont du ventre, ce qui baisse les yeux, ce qui savent découper le poulet, ce qui chauve à l'intérieur de la tête, ce qui bénissent les meutes, ce qui font les honneurs du pied, ce qui debout les morts, ce qui baïonnette ont, ce qui donne des canons aux enfants, ce qui des enfants aux canons, ce qui flotte et ne sombre pas, ce qui ne prennent pas le piré pour un homme, ce que leurs ailes de géants empêchent de voler, ce qui plante en rêve des tessons de bouteilles sur la grande muraille de Chine, ce qui mettent un loup sur leur visage quand ils mangent du mouton, ce qui volent des œufs et n'osent pas les faire cuire, ce qui ont 4810 mètres de Mont Blanc, 300 de Tour Eiffel, 25 centimètres de tour de poitrine et qui en sont fiers, ce qui mamelle de la France, ce qui court, vole et nous venge, tout cela et beaucoup d'autres entraient fièrement à l'Élysée en faisant craquer les graviers, tout cela se bousculait, se dépêchait, car il y avait un grand dîner de tête et chacun s'était fait celle qu'il voulait.
C'était véritablement délicieusement charmant et d'un goût si sûr que lorsqu'arriva le président avec une somptueuse tête d'œuf de colon, ce fut du délire. C'était simple, mais il fallait y penser, dit le président en dépliant sa serviette. Et devant tant de malice et de simplicité, les invités ne peuvent maîtriser leur émotion. À travers des yeux cartonnés de crocodile, un gros industriel verse de véritables larmes de joie. Un plus petit mordit la table. De jolies femmes se frottent les seins très doucement. Et l'amiral, emporté par son enthousiasme, boit sa flûte de champagne par le mauvais côté, croque le pied de la flûte et, l'intestin perforé, meurt debout, cramponné au bastingage de sa chaise en criant « Les enfants d'abord !» Étrange hasard, la femme du naufragé, sur les conseils de sa bonne, s'était le matin même confectionné une étonnante tête de veuve de guerre, avec les deux grands plis d'amertume de chaque côté de la bouche et les deux petites poches de la douleur grises sous les yeux bleus. Dressée sur sa chaise, elle interpelle le président et réclame à grands cris l'allocation militaire et le droit de porter sur sa robe du soir le sextant du défunt en sautoir. Un peu calmée, elle laisse ensuite son regard de femme seule errer sur la table et voyant parmi les hors-d'œuvre des filets de harengs, elle en prend machinalement en sanglotant, puis en reprend, pensant à l'amiral qui n'en mangeait pas si souvent de son vivant et qui pourtant les aimait tant. Stop. C'est le chef du protocole qui dit qu'il faut s'arrêter de manger, car le président va parler.
Jacques Prévert est né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est né donc cette banlieue, disons un peu bourgeoise, qui s'est fait connaître par la suite par des maires prestigieux. Mais il naît donc dans une famille assez humble. Il naît en second, hein, il a un frère aîné qui s'appelle Jean. Le père de Jacques Prévert s'appelle André. C'est un personnage attachant, c'est quelqu'un qui adore le théâtre, qui adore le cinéma, qui emmène ses enfants régulièrement voir des pièces. Il rêve d'écrire du théâtre, il rêve d'écrire sur le théâtre aussi. Il est un petit peu sous la coupe d'un papa, donc le grand-père de Jacques, qui est un personnage assez sévère. D'ailleurs, Jacques l'appelle Auguste le Sévère, qui lui est un clérical, enfin disons un catholique intégriste fervent, rattaché à la paroisse de Nicolas du Chardonnay, commune, paroisse bien connue par la suite. Et le papa de Jacques, lui, continue, bien qu'il soit âgé de plus de 30 ans, à faire des cauchemars à la suite des mauvais traitements que lui ont infligés les frères chez qui il a été élevé. La maman, la maman, donc Suzanne, est une femme très joyeuse. André a épousé cette femme qui est d'une origine très humble, puisqu'elle fabrique avec sa mère des emballages en papier pour les marchands des Halles. Et c'est un mariage heureux. C'est un, d'ailleurs, Prévert en parle. Très tard, à 59 ou 60 ans, il écrira un très beau texte dont on dira d'ailleurs un extrait dans la prochaine émission, qui s'appelle Enfance, dans laquelle il raconte cette atmosphère rieuse. Sa mère, comme il le dit, ma mère me savait. Le père lui renvoie des choses, il l'analyse, il lui dit tu es comme ceci, tu es comme cela, mais sa mère le savait. Et elle chante tout le temps. Elle est heureuse. Elle aussi, elle a été élevée chez les sœurs. Elle en a subi aussi les mauvais traitements, puisqu'elle rappelle que quand on était passage, on vous mettait au coin avec une queue d'artichaut dans la bouche pour savoir combien l'erreur était amère. Était amère. Sa mère, à lui, Jacques. Et donc, le petit Jacques, très vite, prend un petit peu en grippe les curés. Alors il y a évidemment, il fait quelques concessions au grand-père, parce que le grand-père quand même, quand ils vont le voir, lui offre des glaces, parfois toujours une glace au moka, et puis il rencontre, enfin, alors la famille va mener une vie un petit peu vagabonde, parce que le père André a beaucoup de mal à trouver du travail, il va faire plusieurs, enfin ils vont déménager très souvent. Ils vont d'ailleurs avoir amitié avec la famille Toucas-Massillon, dont le petit Louis, qui s'appellera plus tard Louis Aragon, joue souvent avec le petit Jacques Prévert. Et puis il y a un petit frère qui vient, quelques années après, qui s'appelle Pierre, qui est moins connu du grand public, mais tout le monde sait que mon frère Jacques est un film écrit par Pierre Prévert. Pierre Prévert qui va se consacrer toute sa vie au cinéma, avec peut-être moins de notoriété que son frère, mais avec toujours un grand amour pour ce frère aîné qui l'admire énormément. Voilà, donc l'enfance de Jacques se passe en promenade à Dodane. On va s'ouvrir au Luxembourg, on va voir le Guignol, on va voir des pièces de théâtre et le cinéma, les romans d'aventure, c'est quelque chose qui berce son enfance dès le début.
Et André, quand même, c'est un être joyeux et qui aime bien boire des petits coups dans les cafés parisiens.
Oui, il boit beaucoup de petits coups, beaucoup, d'ailleurs. Beaucoup, des fois.
Et Suzanne, elle est plutôt... elle ne lui en veut pas trop.
Non, elle est très tolérante sur les excès de ce mari qui est, ma foi, quelqu'un de très rêveur. Alors, il se passe la famille a beaucoup de difficultés à vivre, malgré le grand-père qui est derrière, qui est riche, qui, de temps en temps, donne un coup de main. La famille va déménager à un moment, d'ailleurs, à Toulon, parce que André perd son emploi. Et là, se passe un premier grand drame dans la vie de Jacques, du petit Jaco, du petit Jacques Prévert, c'est que son père, pris de dépression un jour sur le port de Toulon, veut mettre fin à ses jours et il le dit à Jacques, il lui dit tu vois je ne peux plus vivre cette vie, je vais partir. Et là le petit Jacques qui a à peine 6 ans réussit à persuader son père que c'est peut-être pas forcément le bon choix. Voilà, ça c'est quelque chose certainement dont on ne fait pas assez cas, mais qui peut-être explique dans toute l'œuvre de Prévert cette espèce de grand respect pour la vie d'abord, et puis aussi à côté c'est une espèce de tristesse parfois, la considération qu'il donne à la souffrance des autres. C'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres, très petit déjà. Voilà, donc le petit Prévert grandit. On ne va pas vous raconter tous ces drames d'enfance d'un coup. On va peut-être maintenant lui laisser la parole pour dire comment il a grandi. Maintenant, j'ai grandi.
Enfant, j'ai vécu drôlement, le fou rire tous les jours, le fou rire, vraiment. Et puis une tristesse tellement triste, quelquefois les deux en même temps, alors je me croyais désespéré. Tout simplement, je n'avais pas d'espoir, je n'avais rien d'autre que d'être vivant. J'étais intact, j'étais content et j'étais triste. Mais jamais je ne faisais semblant, je connaissais le geste pour rester vivant, secouer la tête, pour dire non, secouer la tête, pour ne pas laisser entrer les idées des gens, secouer la tête pour dire non et sourire pour dire oui. Oui aux choses et aux êtres et aux choses, à regarder, à caresser, à aimer, à prendre ou à laisser. J'étais comme j'étais, sans mentalité. Et quand j'avais besoin d'idées, pour me tenir compagnie, je les appelais et elles venaient. Et je disais oui à celles qui me plaisaient, les autres, je les jetais. Maintenant, j'ai grandi. Les idées aussi. Mais ce sont toujours de grandes idées, de belles idées, d'idéales idées. Et je leur ris toujours au nez. Mais elles m'attendent pour se venger et me manger un jour où je serai très fatigué. Mais moi, au coin d'un bois, je les attends aussi, et je leur tranche la gorge, je leur coupe l'appétit.
pouvez faire monter vos bières. Un jour vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Et on a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Et on a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres on compte vos secondes. Et on a marre. Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Et on a marre. Il y a quelque temps, monsieur Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Et on a marre. Monsieur Einstein, des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. On a marre. On a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait la lune pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte et on n'a qu'une, qu'on soit requin ou qu'on soit russe. Qu'est-ce qu'elles vous ont donc fait les étoiles pour vouloir leur filer les miches? D'ailleurs au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches. Et on a marre. Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait les hommes pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Et on a marre. Charmant, et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements. Qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, la société c'est pas de la tarte. Oh, y'en a marre. Mais peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Et on a marre.
Il y en a marre. Annick Cizaruc, il y en a marre. C'est aussi ce qui va devenir un peu un leitmotiv secret pour le petit Jaco. Parce que très petit, il commence à voir des choses qui le révoltent. Il voit un jour un ouvrier zingueur tomber d'un toit et se tuer. Il voit un chien passer sous un tramway. Il voit un homme rater son train et s'effondrer désespéré sur un quai. Et tout ça, ça le marque, ça le marque. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que cet univers de liberté qui est cultivé un peu par André et Suzanne, ses parents, Suzanne qui l'appelle sa fée d'ailleurs, eh bien petit à petit cet univers est contrarié par toutes sortes de contraintes, et en particulier celle de l'école où il est un mauvais élève. Il est un mauvais élève, non pas parce qu'il ne s'intéresse pas à la vie, aux gens, aux choses, aux animaux, mais parce qu'il est obligé de rester assis pendant des heures, à écouter, à nonner des choses qui ne l'intéressent pas toujours. Il sera le cancre qui deviendra son tube en tant que poète. Donc il va petit à petit dériver dans une scolarité qui n'est pas exemplaire, voilà, aux yeux des canons habituels. Mais il va continuer à lire énormément. Il lit, il est passionné de littérature. D'ailleurs, il dira plus tard sa révolte contre le fait qu'on dise « tout ça c'est de la littérature ». Il dit « est-ce qu'un jardinier ?» dit tout ça, c'est de l'horticulture. Non, c'est très bien la littérature. C'est ce qui fait aussi échanger les hommes. Et petit à petit, donc, il va être de plus en plus marginal. Il va quand même passer, par rapport à la scolarité, il va quand même passer son brevet, son certificat de fin d'études plutôt, mais il va lier amitié au gré des déménagements de ses parents avec, disons, des gamins de la rue, quoi. Il va dire, et il va faire ses universités, ses humanités, comme il le dit, dans la rue. Voilà. Un autre drame qui va le frapper, c'est la mort de son frère aîné, Jean, qui meurt de typhoïde, je crois, à 17 ans, donc quand il en a 15. Et puis, il y a un drame monumental, c'est celui de toute la société française, puisque en 14 commence la guerre. Et alors, lui, il va commencer à faire des petits boulots à droite à gauche pour gagner sa vie. Il va notamment travailler, je crois, au Bon Marché, où il fait du... Comment il appelle ça ?
Il fait du déplacement d'objets.
Du déplacement d'objets, voilà. C'est-à-dire qu'il va déplacer des livraisons qui sont destinées à certaines personnes. Il va les déplacer vers d'autres personnes, en particulier lui et ses copains. Donc, évidemment, il se fait virer assez vite du Bon Marché. Et il va commencer à faire un petit peu les 400 coups avec quelques copains, dont certains, d'ailleurs, le décevront en s'engageant dans la coloniale. Il le dit, il parle de ses copains de la rue de Tournon où il habite. Et puis, il va faire un certain nombre, on va dire, de conneries qui vont lui donner maille à partir avec la police, jusqu'à tel point que, disons, pour blanchir un peu son dossier, il va finir par devancer l'appel et à s'engager.
Mais c'était un habitué du commissariat de Saint-Sulpice, visiblement.
Voilà, il est habitué du commissariat de Saint-Sulpice, qu'on vous conseille d'ailleurs de visiter. C'est un commissariat historique. Et donc, le petit Jacques, enfin le jeune, l'adolescent Jacques, maintenant, va se retrouver à l'armée. Alors, il a déjà développé un certain bagout qui fait qu'on le respecte. Ses supérieurs l'envoient assez régulièrement au trou, mais ils essayent d'éviter d'avoir affaire à lui parce qu'il a la langue bien pendue et en général, c'est toujours lui qui a le dessus côté langage. Et donc il va, alors rappelle-moi Yves, c'est à Istanbul qu'il va...
Oui, Istanbul.
Il va faire son service à Istanbul. Il rencontre d'ailleurs à Istanbul deux copains qui vont devenir des copains à vie. Yves Tanguy va s'en éloigner peut-être, mais beaucoup plus tard. Alors Yves Tanguy, qui est un jeune breton qui va devenir le grand peintre surréaliste qu'on connaît, qui se fait remarquer par ses copains de chambrée parce qu'il n'arrête pas de manger des araignées en tartine ou parfois cru, parce qu'il essaye évidemment de passer pour fou pour essayer de se faire réformer. Et puis Marcel Duhamel qui va devenir un de ses plus fidèles amis, alors là jusqu'à la fin. Voilà. Donc service militaire un peu houleux, et d'ailleurs qui est, dont peut-être il s'est souvenu, en tout cas il s'est souvenu et de la guerre et de ce service qui a suivi. D'ailleurs on pourrait faire le parallèle avec Desnos qui était lui aussi au service militaire au Maroc à la même époque. Voilà donc pourquoi il écrit peut-être cette familiale.
La mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père ? Qu'est-ce qu'il fait, le père ? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils ? Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils ? Il ne trouve absolument rien, le fils. Le fils, sa mère, fait du tricot, son père, des affaires, lui, la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires, le fils est tué, il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. On trouve ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires, la guerre, le tricot, la guerre, les affaires et les affaires, la vie avec le cimetière.
Savez-vous supposer, monsieur le commissaire ? Je suppose, répond l'autre, pris au dépourvu. Eh bien, supposez que je sois dans la rue au lieu d'être ici, et suivez mon raisonnement. Je suis dans la rue, assis sur un banc, une femme passe. Je me lève et je la suis. Vous me suivez ? Bien. Je suis donc un homme qui suit une femme. Bien. Si je suis une femme, je ne suis pas un homme, puisque c'est une femme que je suis. Suivez-moi bien. Je suis toujours cette femme. Elle s'arrête, entre chez elle et me laisse à la porte. Je ne suis plus cette femme, Je ne suis pas non plus Prévert, puisque je ne suis pas moi-même, vous saisissez, et voilà qu'un chien se met à passer, c'est très clair, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, puisque c'est un chien que je suis, et si je suis un chien, ma place n'est pas ici, mais à la fourrière, vous avez fait une erreur judiciaire, je porte plainte en aboyant, écoutez-moi.
Il faut bien rire un peu.
Et si vous vouliez, je vous emmènerais visiter la ville. Mais vous avez peur des voyages. Vous savez ce que vous savez, et que la tour de Pise est penchée, et que le vertige vous prend quand vous vous penchez vous aussi à la terrasse des cafés. Et pourtant, vous vous seriez bien amusé. Comme quand le président, il descend dans la mine. Comme Rodolphe au tapis franc quand il va voir le Chourineur. Comme lorsque vous étiez enfant et qu'on vous emmenait au Jardin des Plantes voir le grand amanoir. Vous auriez pu voir les truands sans cours des miracles, les lépreux sans cliquettes et les hommes sans chemise couchés sur les bancs. Couchés pour un instant car c'est défendu de rester là un peu longtemps. Vous auriez vu les hommes dans les asiles de nuit faire le signe de croix pour avoir un lit, et les familles de 8 enfants qui crèchent à 8 dans une chambre. Et si vous aviez été sage, vous auriez eu la chance et le plaisir de voir le père qui se lève parce qu'il a sa crise, la mère qui meurt doucement sur son dernier enfant, le reste de la famille qui s'enfuit en courant et qui, pour échapper à sa misère, tente de se frayer un chemin dans le sang. Il faut voir, vous dis-je, c'est passionnant. Il faut voir à l'heure où le bon pasteur conduit ses brebis à la villette, à l'heure où le fils de famille jette avec un bruit mou sa gourme sur le trottoir, à l'heure où les enfants qui s'ennuient changent de lit dans leur dortoir. Il faut voir l'homme couché dans son liquage, à l'heure où son réveil va sonner. Regardez-le, écoutez-le ronfler. Il rêve. Il rêve qu'il part en voyage. Rêve que tout va bien. Rêve qu'il a un coin. Mais l'aiguille du réveil rencontre celle du train et l'homme levé plonge la tête dans la cuvette d'eau glacée si c'est l'hiver, fétide si c'est l'été. Regardez-le se dépêcher, boire son café crème, entrer à l'usine, travailler. Mais il n'est pas encore réveillé. Le réveil n'a pas sonné assez fort. Le café n'était pas assez fort. Et il rêve encore. Rêve qu'il est en voyage, rêve qu'il a un coin, se penche par la portière et tombe dans un jardin, tombe dans un cimetière, se réveille et crie comme une bête, 2 doigts lui manquent, la machine l'a mordu, il n'était pas là pour rêver et comme vous pensez, ça devait arriver.
Il fait chaud. Amoureuses, les allumettes tison se vautrent sur leur trottoir, c'est le printemps, l'acné des collégiens. Et voilà la fille du sultan et le dompteur de Mandragore. Voilà les pélicans, les fleurs sur les balcons. Voilà les arrosoirs. C'est la belle saison. Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons. Il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui écaillent le poisson, ceux qui mangent la mauvaise viande, ceux qui fabriquent les épingles à cheveux, ceux qui soufflent vides les bouteilles que d'autres boiront pleines, ceux qui coupent le pain avec leurs couteaux, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait, ceux qu'on n'endort pas chez le dentiste, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres écriront en plein air que tout va pour le mieux, ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui ont du travail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas, ceux qui donnent à boire aux chevaux, ceux qui regardent leurs chiens mourir, ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux que le Suisse envoie se chauffer dehors, ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre, ceux qui voyagent sous les roues, ceux qui regardent la Seine couler, ceux qu'on engage, qu'on remercie, qu'on augmente, qu'on diminue, qu'on manipule, qu'on fouille, qu'on assomme, ceux dont on prend les empreintes, ceux qu'on fait sortir des rangs au hasard et qu'on fusille, ceux qu'on fait défiler devant l'arc, ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier, ceux qui n'ont jamais vu la mer, ceux qui sentent le lin parce qu'ils travaillent le lin, ceux qui n'ont pas l'eau courante, ceux qui sont voués au bleu horizon, ceux qui jettent le sel sur la neige, moyennant un salaire absolument dérisoire, ceux qui vieillissent plus vite que les autres, ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l'épingle, ceux qui crèvent d'ennui le dimanche après-midi parce qu'ils voient venir le lundi et le mardi et le mercredi et le jeudi et le vendredi et le samedi et le dimanche après-midi. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte. C'est un évêque qui est saoul et qui met sa crosse en l'air, comme ça, en titubant. Il est saoul. Il a sur la tête cette coiffure qu'on appelle mitre et tous ses vêtements sont brodés richement. Il est saoul. Il roule dans le ruisseau. Sa mitre tombe. C'est le soir. Ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Sur le trottoir, il y a un chien. Il est assis sur son cul. Il regarde l'évêque. L'évêque regarde le chien. Il se regarde en chien de faïence, mais voilà l'évêque fermant les yeux, l'évêque secoué par le hoquet. Le chien reste immobile et seul, mais l'évêque voit deux chiens, dégueulis. Voilà l'évêque qui vomit dans le ruisseau, passe des cheveux, des vieux peignes, des tickets de métro, des morceaux d'oie thermogène, des préservatifs, des bougeons de liège, des mégots. L'évêque pense tristement, « Est-il possible que j'aie mangé tout ça ?» Le chien hausse les épaules et s'enfuit avec la mitre. L'évêque reste seul devant la pharmacie. Ça se passe rue de Rome. Rue de Rome, il y a une pharmacie. L'évêque crie. Le pharmacien sort de sa pharmacie. Il voit l'évêque. Il fait le signe de croix, puis, plaçant ensuite deux doigts dans la bouche de l'évêque, il l'aide. Il aide l'évêque à vomir. L'autre l'appelle son fils, fait le signe de la croix, mais puis recommence à vomir. Le pharmacien, avec les doigts qui ont fait le signe de la croix, aide encore l'évêque à vomir, puis fait le signe de la croix, et ainsi de suite, alternativement, signe de la croix et vomissement.
C'était un grand dîner de première communion. Il y avait le cousin Ponce Pilate, la cousine Bette, les quatre fils Edmond, les frères Lumière, les sœurs Tourière, l'oncle Sam, les enfants d'Édouard Drumont, les filles de Lot, les filles de Camaret, et celles de Minos et de Pasiphaé. Et le gendre de Monsieur Poirier, et la mère Michel Strogoff, et le père Lustucru. On n'attendait plus que le père Ubu. Soudain, la porte s'ouvre, et c'est le père éternel qui entre. C'était le même. Vous parlez d'une histoire de famille, vous parlez d'un secret d'État. On n'aurait jamais cru chose pareille. C'est vraiment vrai qu'il est capable de tout, cet être-là. Mais le plus marrant de l'histoire, c'est qu'il avait le fils de l'homme sandwich sous le bras. Il l'a jeté sur la sainte table. Ah, les joyeux anthropophages! Comme ils connaissaient bien les usages, avec un très touchant ensemble, ils se sont tous précipités et ils n'en ont fait qu'une bouchée. Le service a été impeccable et le dessous de plat à musique n'a pas cessé de jouer le cantique des cantiques.
Voilà, Jacques Prévert revient du service militaire, c'est 1922, et il est habillé comme un prince quand il vient accueillir son camarade Marcel Duhamel à la gare, parce qu'il a déjà le goût des beaux costumes et d'être bien habillé, même s'il n'a pas le sou et même s'il se débrouille un peu en tirant le diable par la queue. Alors, cette bande de copains, donc Duhamel, Yves Tanguy et Jacques Prévert, vont s'installer rue du Château, parce que Marcel Duhamel a une famille assez riche, on lui a confié la gestion d'un hôtel, et il essaye, alors d'abord il casse ses copains dans une petite chambre d'hôtel, puis ils arrivent à, je crois, récupérer une boutique de peau de lapin qui est mise en location, et ils s'installent là, et ça va devenir la maison de la rue du Château, je ne sais plus si c'est au 28 ou au 58, peu importe, mais en tout cas, ça va devenir
un 54.
Au 54 du Château, donc dans le 14e arrondissement à Paris, et ça va devenir une sorte de foyer un petit peu de folie, d'improvisation. Alors, ce qui est drôle, c'est que Prévert, lui, n'écrit rien avant 1928, mais il cultive dans cette espèce de paresse, entre guillemets, un peu bohème, il cultive l'art de la plaisanterie, on va dire, voilà. Il y a un Centre National d'Art de la Plaisanterie aujourd'hui à Montbéliard, il doit certainement beaucoup de choses à Jacques Prévert. Prévert se met à cultiver les blagues, hein. Les blagues de toutes sortes d'ailleurs. Alors, et puis au bout d'un moment, ils finissent par faire la jonction avec une autre bande de joyeux lurons qui sont les Desnos, Benjamin Perret, Malkin, peintre surréaliste, puisqu'ils sont aussi dans le pas loin de Montparnasse. Et là, à la rue du Château, va commencer une espèce de foyer d'ébullition, hein, à la fois peinture, écriture automatique. C'est là que Prévert lance le jeu, le fameux jeu du cadavre exquis. Hein, c'est lui qui l'a lancé, avec Breton d'ailleurs, qui va commencer à venir les visiter et qui est absolument enthousiasmé et séduit par ce jeune homme à l'œil un peu vague, qui est coiffé à l'époque avec une frange sur le front, mais qui cultive toujours un grand chic vestimentaire. Voilà, et c'est déjà dans ses premiers temps que Prévert écrit des premières chansons. Et en particulier, ce texte, je crois que La pêche à la benne, ça date de plus loin, ça date d'un voyage en Tchécoslovaquie, mais par contre, il écrit une autre première chanson, Yves au secours, on ne la connaît pas, voilà, nous sommes pris en défaut total. Eh bien, en tout cas, on dit qu'en 28, il écrit une première chanson, et puis surtout, il a écrit ce premier texte qui est le dîner de tête, enfin la tentative de description d'un dîner de tête à Paris, je ne sais plus. En tout cas, vous le trouverez partout, c'est le texte qui ouvre parole. Et ce qui est drôle, c'est que ce texte est publié dans la revue Commerce en même temps qu'un texte de Paul Claudel qui n'aime pas du tout Proust et qui dit « Mes seuls amis sont les corbeaux ». C'est assez drôle quand on pense que le texte de Prévert commence par « ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui croient, croient ». C'est un joli hasard littéraire.
À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc?
Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait popo? Voilà pépé, voilà pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon.
La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole.
À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger.
Le dimanche matin, on fait l'amour. Et parfois, il y a la radio. Et le dimanche matin, à la radio, il y a souvent la messe. Dimanche dernier, il y avait un sermon sur la concupiscence. Bien sûr, nous entendions des voix qui nous disaient allô, allô, n'écoutez pas l'écoute. Ces voix, c'étaient les nôtres. Mais nous avions aussi envie de rire, et nous n'avons pas tourné le bouton. Concupiscence. Quel beau mot disait le sermonneur et qui évoque tant de choses. Le mot « conque », le nom du coquillage que l'on porte à l'oreille pour entendre le bruit de la mer. Le mot « huppe », le nom de cet oiseau aux mœurs sauvages mais familières. Le mot « hisse », le nom de la ville engloutie dans les flots et sans aucun doute par la colère divine. Le mot « Hans », sans aucun doute non plus, le nom d'un marin qui avait commis le péché, causant ainsi la disparition de la ville en question. D'ailleurs, le mot « Hans » évoque aussi l'anse du panier, qu'autrefois les petites bonnes n'hésitaient pas à faire danser et même, petit rire libre et prime sautier, l'anse du récipient qui faisait tant rire autrefois, il faut l'avouer, un peu audacieusement, les gens bien pensants. Et il répétait, en pesant ses mots avec un plaisir plein de lenteur et de persévérance, « Concupiscence ». Il parla aussi d'autre chose, nous conseillant d'aller à confesse pour éviter le concubinage, et nous apprit, qu'on appelait autrefois « concuré », le prêtre exerçant la charge de curé concurremment avec d'autres abbés.
Jacques Prévert, en 1928, se rapproche donc du groupe surréaliste et il fait grand effet à André Breton. Mais en même temps, il y a, vous savez, ce papisme d'André Breton qui certes ne plaît pas beaucoup à un anticlérical comme Prévert, pas pour des raisons purement anticléricales, mais parce que Prévert est quelqu'un de très libre, de très rebelle, et ça commence à l'agacer les actes autoritaires de Breton. Donc il va petit à petit s'en détacher. Pourtant, il fait partie des favoris, parce que Breton aime bien créer des cercles autour de lui, plusieurs cercles concentriques. D'ailleurs, il y a cette petite anecdote. Il ne se prive pas d'ailleurs de faire des petites remarques un peu acerbes à Breton. Une fois, Breton se casse la figure dans son escalier rue Fontaine, se retrouve avec son stylo Parker à plume en or fiché dans son portefeuille, juste à l'endroit du cœur, et Prévert lui dit « Quel dommage, vous avez raté une occasion formidable, mourir !» Le cœur transpercé par une plume, quel destin pour un écrivain. Voilà, alors peut-être que Breton n'aime pas chez Prévert quelque chose qu'il n'aime pas non plus chez Robert Desnos, dont on a parlé, c'est son côté fêtard, et c'est aussi cette liberté d'aller fricoter avec le théâtre, avec la chanson, et avec le cinéma surtout, puisque Prévert commence à essayer de gagner sa vie avec le cinéma, soit en écrivant des petits scénarios qui n'ont guère de succès, qui n'arrivent pas à placer, mais parfois en jouant comme figurant, mais aussi comme acteur dans certains films, comme par exemple un film qui s'appelle Les Grands, dans lequel il joue le rôle d'un élève studieux, ce qui prouve ses talents d'acteur, et il commence à figurer un petit peu partout. Non seulement il figure, mais il fait aussi travailler les copains dans ses rôles de figuration. Et puis il rencontre là de bien jolies filles, peut-être d'ailleurs la plus jolie fille du monde.
La plus jolie fille du monde et son dernier nouveau mari font leur numéro dans la cage de la grande machine à images. L'amour secret est bien plus sage, personne ne le photographie. L'amour heureux des amoureux. Un grand lit sans personne autour. La plus jolie fille du monde, sa vie est privée de dessert. Quand elle sourit, ça lance la mode. Et quand elle pleure, tout le monde rigole. Mais elle espère connaître un jour, même un seul jour, une seule nuit, l'amour heureux des amoureux. Un grand lit sans personne autour. La plus jolie fille du monde et son dernier nouveau mari font leur numéro dans la cage de la grande machine à images, du plus grand reportage d'aujourd'hui.
Comme par miracle, des oranges aux branches d'un oranger. Comme par miracle, un homme s'avance, mettant, comme par miracle, un pied devant l'autre pour marcher. Comme par miracle, une maison de pierre blanche derrière lui sur la terre est posée. Comme par miracle, l'homme s'arrête au pied de l'oranger, cueille une orange, l'épluche et la mange, jette la peau au loin et crache les pépins, apaisant, comme par miracle, sa grande soif du matin. Comme par miracle, l'homme sourit, regardant le soleil qui se lève, et qui luit. Et l'homme ébloui rentre chez lui et retrouve comme par miracle sa femme endormie, émerveillée de la voir si jeune, si belle, et comme par miracle, nue dans le soleil, il la regarde, et comme par miracle elle se réveille et lui sourit. Comme par miracle il la caresse, et comme par miracle elle se laisse caresser. Alors, comme par miracle, des oiseaux de passage passent, qui passent comme cela, comme par miracle, des oiseaux de passage qui s'en vont vers la mer, volant très haut, au-dessus de la maison de pierre, où l'homme et la femme, comme par miracle, font l'amour. Des oiseaux de passage au-dessus du jardin, où, comme par miracle, l'oranger berce ses oranges dans le vent du matin, jetant, comme par miracle, son ombre sur la route. Sur la route où un prêtre s'avance, le nez dans son bréviaire et le bréviaire dans les mains, et le prêtre marchant sur la pelure d'orange jetée par l'homme au loin, glisse et tombe, comme un prêtre qui glisse sur une pelure d'orange et qui tombe sur une route un beau matin.
I did it, je l'ai fait, c'était Roland Kirk qui exprime toute sa rage dans sa flûte et Prévert, donc, dans les années, à l'approche des années 30, Prévert est en train de cultiver ce style qui est fait de parler populaire, qui est fait aussi d'une grande imprégnation de la façon qu'ont les pauvres ou les milieux populaires de tourner en dérision leur propre misère aussi. Ça va d'ailleurs faire son style, ça va faire aussi ce pourquoi, enfin, la compétence pourquoi on va le réclamer de plus en plus au cinéma, parce que son grand savoir, c'est parfois de sauver des scénarios en faisant entrer dedans des personnages secondaires mais qui sont truculents. Et il le dit lui-même, il dit la rue a fait mes humanités, et effectivement il commence à amasser un savoir dans le langage populaire absolument extraordinaire. On pourrait dire même qu'une de ses figures préférée, hein, c'est le zeugme, cette façon de dire, d'utiliser une expression populaire et puis de dériver à partir d'un verbe sur une autre expression du genre « il baissa sa culotte et dans mon estime » ou « quand la moralité fout le camp, le fric court derrière ». Voilà, c'est dans cette. Il va donc aller de plus en plus vers le cinéma, mais déjà très 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 tôt, il a conscience de cette fraternité des pauvres, et c'est très tôt qu'il écrit ce texte « Étranges étrangers ». Hein, qui sera publié beaucoup plus tard dans Parole. Étranges étrangers de la porte de la chapelle. Mon ami, c'est dans le deuxième CD de Prévert et ses interprètes. Voilà, mais peut-être que on va le retrouver, nous, dans le texte. C'est Prévert qui le dit, dans cette version. C'est Prévert lui-même qui le dit. Alors, on a gardé cette interprétation qui est peut-être un petit peu particulière, parce qu'on entend que Prévert a toujours son mégot à la bouche. Hein. Il mange parfois certains mots, mais c'est tellement délicieux d'entendre le grand Prévert dire son propre texte.
Étranges étrangers. Étranges étrangers, Kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumiant de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, polacs du Marais, du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer, où peuvent vous baigner? Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquaient chaque jour dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Enfants indo-chinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez.
Voilà, sur ce Pithecanthropus erectus de Charlie Mingus se termine cette première émission consacrée à Jacques Prévert et cette parabole du pithécanthrope qui se traîne d'abord à quatre pattes, se met sur ses deux jambes de derrière, finit par en concevoir une arrogance incroyable et à opprimer ses semblables, n'aurait pas déplu, je pense, à Jacques Prévert. Donc, fin de cette première émission qui, comme vous vous en rendez compte, est la rediffusion d'une émission déjà ancienne, enregistrée pendant le Printemps des Poètes il y a quelques années. Mais comme vous le savez, nous sommes plutôt pour le plein temps des poètes, sans dédaigner le printemps, bien sûr. Voilà, il me faut remercier tous les 10 heures qui ont participé à cette émission. J'ai nommé Delphine Mélèze, priorité aux dames, Florence Mourieras, Yves Flanque pour les messieurs, Patrick Vendrin, Jean-Claude César, Julien Guil, Philippe Goudard. Il nous faut remercier aussi les musiciens qui ont prêté leur génie à illustrer ou à humblement jouer derrière ces beaux textes de Prévert, Roland Kirk, la chanteuse Annick Cizaruc également, et puis les musiques des films de Jacques Tati que nous avons pillés sans vergogne. Voilà, la BIP est toujours au rendez-vous de l'imprévu. Vous pouvez l'appeler, la contacter par l'intermédiaire des radios qui diffusent ces émissions, mais aussi en vous rendant sur le site www.michelarbatz.com, sur lequel vous pouvez d'ailleurs aussi réécouter toutes ces émissions qui sont en archive. Voilà, nous espérons vous retrouver bientôt pour la prochaine émission consacrée encore au jeune Jacques Prévert. À bientôt. Mm-hmm.